Bienvenue sur le podcast Physiologie et Intuition, un podcast pour célébrer la beauté de la maternité et rendre à la physiologie et à l'intuition maternelle leur lettre de noblesse. Dans une société habituée à évoluer en captivité, des femmes, des familles choisissent de vivre libres et souveraines, d'enfanter dans leur puissance, d'élever leurs enfants dans un autre paradigme. Je m'appelle Johanna, ce podcast est mon humble participation à l'émergence d'une nouvelle culture qui honore la vie. Comme le disait si bien Janine Parvati Baker, la paix sur terre commence avec la naissance. Puisse chaque femme qui le souhaite faire l'expérience de ce chemin de confiance, de guérison et de connaissance que peut être la maternité. Puisse-t-elle être soutenue, entourée et célébrée dans cette grande transition qu'est chaque naissance. Puissent tous les bébés naître dans la douceur. Ce podcast n'a pas vocation à prodiguer des conseils. Plutôt que de donner des réponses, il invite chacune à retrouver en soi la source de ses réponses. Il est une invitation à prendre la pleine responsabilité de sa vie et de ses choix. Dans cet épisode, j'ai la joie d'accueillir Alexandra, ancienne sage-femme AAD, aujourd'hui thérapeute psychocorporelle à Antibes. Je me suis régalée de cette rencontre et de cette conversation, de notre vision commune de la naissance, du chemin de réappropriation de notre corps, de notre intuition. Alexandra accompagne les femmes vers une féminité assumée, une sexualité libérée, ainsi qu'une santé intime holistique. Son programme en ligne Périnée Vivant, qui commencera dans quelques jours si vous écoutez ce podcast à sa publication, permet de retrouver plus de sensations et de joie dans son intime. Belle écoute de cet épisode et belle découverte, si c'est le cas, du travail d'Alexandra. Bonjour Alexandra, merci beaucoup de venir témoigner dans le podcast. Je suis hyper heureuse de t'accueillir. Tu es la deuxième ancienne sage-femme que j'accueille ici. Enfin, pour moi, tu es toujours sage-femme, mais disons ancienne sage-femme officielle. Écoute, je t'invite à te présenter avant qu'on démarre l'histoire de ton histoire, ton récit.
Merci, merci pour cette opportunité d'être ici avec toi, de pouvoir discuter de ces sujets qui nous touchent. À la base, sage-femme dans les études bien médicales. et puis, j'ai quitté ensuite l'ordre des sages-femmes pour être dans une activité de thérapeute. Beaucoup me disent, est-ce que c'est doula? Donc, on pourrait dire aussi que ça se rapproche de ça, mais avec les compétences aussi de thérapeute à côté, toujours en tout cas dans l'accompagnement de la femme de manière holistique, globale, que ce soit dans la gynécologie holistique, au cours de la grossesse, autour du périnée ou des traumas aussi qu'il y a dû y avoir dans l'intime. Voilà, ça c'est ce que j'aime faire. Et puis le côté rituel aussi, par exemple le rebozo, les passages des lunes, des cercles de femmes. Voilà, en gros, à peu près.
Et donc on se disait, tu pouvais nous partager ton parcours, ce qui t'a conduit d'abord à faire ces études-là et ensuite à quitter cet univers-là pour choisir. Ce que tu viens de décrire, pour moi, c'est ça, la sage-femmerie et la vraie maïeutique, si on peut dire. Enfin, cet accompagnement de la femme holistique et avec ce sens du sacré, du rituel. Alors, on a des styles différents, voilà, chacune, mais c'est inséparable, quoi, de l'expérience de la maternité et encore de la naissance en particulier, mais de tout ce qui accompagne la femme, quoi, tout son chemin, tout notre chemin de vie de femme. Et donc, ce que tu viens de décrire pour moi, c'est ça, l'accompagnement de la femme. Et donc, qu'est-ce qui t'a conduite? Comment t'es arrivée à tout ça? Si différent quand même de ce que t'as dû pratiquer avant. Et voilà.
Ouais. En fait, quand j'étais petite, autour de mes 9-10 ans, j'ai une vision et je me voyais vraiment dans un cabinet médical, en tout cas ce que je jugeais comme ça de mon regard d'enfant. Avec du parquet au sol et puis avec une femme en face de moi avec un bébé sur les genoux et à parler d'alimentation, d'allaitement, de je ne savais pas trop quoi, mais comme un pédiatre peut-être, en tout cas dans mon esprit à ce moment-là, qui ne connaissait pas le métier de sage-femme, c'était plutôt l'accompagnement pédiatre. Et puis, j'ai continué le lycée, tout ça, et jusqu'à dire, OK, je vais faire médecine, en fait, et me rendre compte au cours des études de médecine qu'il y avait d'autres concours en même temps que médecine, et il y avait sage-femme. Et là, je me suis dit, OK, en fait, c'est ce métier-là qu'il me faut. C'est trop bien parce que je peux être indépendante, ce qui est hyper important pour moi, donc me mettre en libéral et faire ce que je veux. Je peux prendre le temps avec les femmes, je ne suis pas pressée par le système, je peux connaître les gens et être cette sage-femme un peu de campagne avec sa petite mallette en cuir et qui connaît les gens et qui voit la femme et puis qui voit sa mère et puis qui voit sa sœur et sa cousine. Et puis en fait, quand je suis rentrée après dans l'école de sage-femme après le concours de la première année de médecine, j'ai eu la chance de faire mon premier stage à l'hôpital en service de gynécologie, dans une petite matière où il y avait aussi la maternité du coup à côté. Et donc on m'a dit, bah toi t'es toute jeune, tu veux venir à une naissance. Et donc j'ai assisté à une naissance alors que j'avais eu aucun cours et j'avais juste ma vision personnelle de la naissance qui était loin d'être ce que j'ai vu à l'hôpital, où là la femme était allongée sur le dos, les pieds dans les étriers, le père qui était là mais pas là, il savait pas où se mettre, la femme étendait la main mais personne lui tendait cette main, j'avais juste envie de lui prendre la main alors que je la connaissais pas, la table d'accouchement à 1,5 m du sol, un étudiant sage-femme devant son sexe, hyper stressé, la sage-femme qui lui disait de faire une épisio. J'étais un peu en mode, oh mon Dieu, en plus de voir le périnée s'emplier, je me disais, waouh, j'avais jamais vu ça, j'étais pas prête à cette vision-là, d'avoir l'intimité de la femme comme ça. Et puis, je suis sortie de la pièce, je suis rentrée, je me rappelle même pas avoir vu le bébé naître. Je pense que j'ai fait un blackout, en fait, à ce moment-là. Je me rappelle du placenta et d'être ressortie de la pièce et de m'être dit, mais je vais tomber bombe là déjà. Et puis, je me suis trompée, en fait. J'ai fait la première année de médecine, cette année horrible, pour rien, parce que c'est vraiment pas ça. Moi, j'avais vraiment l'image, je sais pas d'où, mais cette vision-là de la naissance, c'est dans la pénombre,
Je t'ai
des
demandé d'où tu avais
lumières.
cette vision de la naissance différente. Tu sais? Donc
Voilà.
non, tu sais pas.
Non, vraiment d'intuition et j'aime croire que dans
Oh,
ma vie, j'ai déjà été
ouais.
sage-femme.
Oh.
En tout cas, voilà, tu vois, la pénombre, le peu de lumière avec le compagnon, en tout cas la personne, coparent présent à côté, la sage-femme dans un petit coin et puis le bébé naît, et waouh, le
Le
tympan.
sacré, quoi, ouais,
Voilà.
l'intimité, le respect, enfin bon, la
Et c'est
naissance, quoi.
vraiment le mot sacré qui me venait, tu vois, quelque chose de naturel, juste à la couche, en fait, il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de médical, il n'y a pas besoin de s'affoler, il n'y a pas besoin de se stresser. Et donc là, j'ai vu la différence avec ce que je voyais à l'hôpital. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué de continuer ces études. Et finalement, j'ai tenu bon, tout en me disant à chaque fois, mais je vais arrêter, c'est pas possible, je suis incapable de travailler à l'hôpital, en fait, d'appliquer des protocoles, de bafouer la notion de consentement. De faire peur pour que les gens aillent plutôt dans ce choix-là que dans un autre. Moi-même, être baignée dans la peur et être formatée à la peur. Et non, je me dis, mais là, je suis technicienne hospitalière, en fait. Et puis, vraiment, gratitude à tous les professionnels de santé qui sont dans les hôpitaux parce qu'il y a aussi besoin d'eux et il y a des personnes qui font leur métier avec beaucoup d'amour et qui arrivent à faire changer les choses de l'intérieur du système. En tout cas, moi, j'étais incapable d'être à cette place-là. Donc, je savais déjà que j'allais me mettre en libéral. Ce que j'ai fait dès mon diplôme, et je me rappelle que la cadre sage-femme m'a donné mon diplôme un peu, on tenait chacune le papier d'un bout, comme si elle disait vraiment, vous êtes sûre, vous allez vraiment vous mettre en libéral, parce qu'elle savait que j'allais m'installer avec une sage-femme qui accompagnait les naissances à domicile, et je pense qu'elle n'était pas ravie. Oui, c'était bien ça que je voulais faire, et donc, voilà, en septembre, direct, j'étais installée, j'ai accompagné la première naissance grâce à ma collègue, et c'est bon, j'étais lancée, je me suis dit, OK, je ne suis pas folle. Il y a donc bien d'autres gens qui pensent comme moi. La femme, elle a vraiment juste donné naissance simplement sur son canapé, sans perfusion, sans effort expulsif, volontaire, sans rien, quoi. Juste, elle était là, dans l'amour. Et j'ai eu la chance aussi, durant mes études, de rencontrer des femmes et des sages-femmes qui avaient donné naissance à la maison et du coup, ou qui accompagnaient. Et ça m'a permis aussi de tenir durant mes études. Et j'ai fait une formation de prof de yoga en parallèle, qui m'a aussi permis, je pense, parce que quand j'allais à mes stages le matin à l'hôpital pour les 12 heures de garde, donc c'était vraiment dur émotionnellement pour moi, bah voilà, je me revois à faire mon guerrier le matin et à me dire j'ai confiance en moi et mes capacités, je suis stable. Parce que je tombais assez souvent dans les pommes parce que je voulais pas être là, en fait. C'était une fuite des violences obstétricales et puis bah juste que j'étais pas en accord avec ce que je voulais. Ça veut pas dire qu'il y a de la violence partout, mais juste je me sentais pas à ma place, quoi.
Même si, en fait, je pense que dire, moi, je serais plutôt du genre à dire qu'il y a de la violence partout, sauf que les gens ne sont pas forcément violents, mais le système est violent. Donc, même dans le meilleur des cas, enfin, tu vois, je te partageais que moi, j'ai vécu en apparence d'un traitement super à l'hôpital, bah, il y a même des choses subtiles sont une violence contre la physiologie et contre le respect de la personne. Alors, il y a des exceptions, et puis, c'est pas pour, en fait, c'est pas, il s'agit pas de vilainiser les personnes, mais le, tu sais, tu disais, moi, je crois que dans l'intérieur, des gens qui changent le système, moi, je crois que dans le système, il y a des gens géniaux. Mais je crois pas qu'on peut changer ce système parce qu'il fonctionne parfaitement, en fait. Il est pas, il est destructeur. Donc ça, c'est mon, voilà, je le dis souvent ici, mais, et donc ça veut pas dire que on juge les personnes qui sont dedans et ça, mais quand je t'écoute, je suis admirative de, que ta sensibilité n'ait pas été, parce que je pense qu'on a, on est vraiment blessé dans notre intuition et dans notre sensibilité et on est habitué à voir des choses anormales comme normales dans plein de
Ouais.
domaines, que ce soit la naissance, mais même on voit des, je parlais de ça ce week-end, on voit des films d'une violence incroyable, et je sais pas, c'est normal, moi je trouve ça trop bizarre de regarder ça volontairement, et que t'aies pu garder cette, bah, cette sensibilité, et que, tu vois, que t'aies pas été habitué à ça, et que t'es toujours, ton intuition t'a toujours rappelé ça, je trouve que c'est admirable, enfin admirable, pas, voilà, c'est une grâce que t'as d'avoir, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est
Parce
vrai.
que c'est pas
Ouais,
les
merci.
personnes qui sont mauvaises, c'est juste qu'on est habitué à des choses tellement anormales qu'on croit que c'est normal.
Ouais, c'est vrai. Oui, c'est à honorer, ça, c'est vrai. Mais en fait, je me mettais vraiment dans ma bulle tous les jours en allant en stage ou même en allant en cours pour garder ben, cette naïveté, enfin, cette innocence à l'intérieur de moi et qui me disait ça peut être autrement. Et je remercie énormément ma mère et mon copain de l'époque qui m'ont soutenue dans toutes les fois où j'ai pleuré, où je me suis dit mais pourquoi je suis là, mais c'est pas normal, mais c'est horrible et tout ça. Et voilà, j'ai eu beaucoup de soutien pour tenir et avoir mon diplôme pour pouvoir faire ce que je voulais avec après. Ce qui est drôle, c'est que finalement, tout ça, pourquoi, quelques années après,
J'allais dire au final, tu as réalisé que tu n'en avais même pas besoin de ce diplôme, mais
c'est
ça fait
ça.
partie de c'est sûrement, il y a, c'est obligé que, enfin, c'est évident qu'il y a une raison et que dans ton témoignage aussi, il y a quelque chose à
Oui.
transmettre de ça, justement.
Bah, en fait, en tout cas, je suis contente parce que là, je connais vraiment le système de l'intérieur puisque j'ai vécu, je l'ai traversé et je sais de quoi je parle et je me sens légitime quand je parle de ça. Je me sens légitime quand je parle de protocoles, de physiologie, de pathologie, parce que voilà, j'ai compris certaines notions et je peux aussi les remettre complètement en question et amener autre chose et re-questionner complètement la physiologie que j'ai pas du tout apprise à l'école. Et là, ça, je peux clairement témoigner.
Et c'est clair, c'est témoignage de l'intérieur, même si, ouais, c'est
C'est
clair.
ça, et c'est vraiment fou toutes les étapes à déconstruire, mais comme dans plein d'autres domaines de la vie, on nous a déjà formaté à valider l'opinion de l'autorité et à ne pas écouter notre propre intuition et notre oui ou notre non intérieur. Et déjà depuis l'école, parce qu'on écoute le prof, on écoute nos parents, on écoute le gouvernement, c'est toujours le supérieur qui a le plus d'autorité et de valeur. Que notre intérieur est là pour l'accouchement, c'est pareil, on s'en remet au gynéco, à la sage-femme, au système. Et combien de fois j'entends des discours comme ça de femmes qui bah, ont vécu bah, un déclenchement ou n'importe quelle décision médicale en disant bah, moi je n'étais pas trop pour, mais bon, on m'a dit que c'était mieux. Il y a des fois même pas une vraie raison médicale derrière, on a joué plus sur la peur et l'émotionnel. Et on a fait en sorte que les femmes soient infantilisées. Et alors. Je trouve que c'est aussi aux femmes, aux couples, de prendre leurs responsabilités, de faire tout ce chemin-là de déconstruction pour reprendre leur autonomie, leur souveraineté. Mais c'est sûr que c'est un gros challenge par rapport au système qui est tellement fort, puissant. Si on se sent un peu seul dans nos projets et qu'il n'y a personne autour qui peut soutenir, parce qu'il y a une autre personne qui a fait les mêmes choix, parce qu'il y a une doula, il y a une sage-femme, il y a un thérapeute, il y a un ostéo qui a la même vision, c'est sûr que c'est challengeant. Et des fois, on attend le deuxième, troisième, quatrième enfant pour pour aller vraiment dans ce qui nous plaît à l'intérieur et ce qu'on sentait dès la première naissance. Mais il y a des femmes qui me disent, j'aimerais tellement accoucher dans la nature, mais bon, bah, du coup, je vais accoucher à l'hôpital.
Ouais, ou
C'est bien.
alors mon homme, il est d'accord pour le deuxième bébé, mais pas pour le premier. Donc,
Ouais.
on attendra le deuxième pour rester à la maison. Waouh, c'est ouais. On se rend pas compte de la profondeur des implications. Chaque naissance est tellement unique et sacrée. Enfin, ouais.
C'est ça. Et donc moi, mon rôle, c'est de pouvoir ben, questionner qu'est-ce que tu sens vraiment à l'intérieur, de quoi tu as envie, et de mettre en miroir la confiance que tout est possible, quoi. On peut vraiment accoucher comme on le souhaite, même accoucher, le mot n'est pas juste, mais enfanter.
Ouais, c'est
Voilà.
magnifique. Enfin, c'est peut-être ça la, ouais, la mission, c'est de rappeler à chacune, à chacun, à chacune, mais qu'on a tout en nous, quoi, et qu'il s'agit juste de, bah, d'y croire et de le savoir, parce que comme tu dis, enfin, comme je te partageais aussi, enfin, si on le sait pas, on est tellement conditionné qu'on sait même pas que c'est possible autre chose, quoi. On sent qu'il y a quelque chose de pas juste, mais peut-être qu'on sait même pas ce qui est possible. Donc, c'est vrai que c'est pour ça
Ouais,
que
c'est
c'est
ça.
important de parler, de montrer, de je dire quoi sans cesse qu'autre chose est possible pour que je... C'est ce que tu as dit, c'est super intéressant. C'est en effet le système est tordu, enfin, mais que c'est la responsabilité de chacun de choisir autre chose. Et en même temps, comment tu choisis si tu sais pas? Donc en fait, c'est un loop, j'ai l'impression qu'il se nourrit dans les deux sens. Enfin, pour qu'il y ait un bourreau, il faut une victime, et la victime, elle, tu vois, on s'appelle mutuellement. Donc c'est hyper dur de quitter ces conditionnements. Enfin, c'est hyper dur, ça peut paraître très lointain pour certaines personnes, et en même temps, bah, il faut que des personnes consentent pour que ça marche, quoi, tout ce système. Et d'ailleurs, bon, je ne veux pas sauter les étapes, mais je me dis, c'est un peu sûrement ce que tu as vécu. En quittant l'ordre, tu as cessé de consentir à quelque chose qui était tordu pour... Voilà. Bon, mais sautons pas les étapes.
Mais voilà, je rebondis sur l'idée de vraiment en parler, de déconstruire. Et moi, j'adore dès qu'il y a une occasion, une réunion de femmes, et puis bah, dès que je parle de mon métier, ben, forcément, on va me raconter les naissances, on va me questionner, tout ça. Et ben, c'est l'occasion de dire, et des fois un peu même en taquinant, mais en fait, tu sais que la naissance, elle peut aussi être orgasmique. Oh, ben bon? Et là, du coup, ben, oui, tu sais, c'est un acte sexuel aussi, la naissance. Et voilà, et puis de progressivement déconstruire comme ça, j'ai l'impression que mon métier, c'est vraiment prendre le temps de déconstruire les croyances limitantes qui sont là. Et puis de donner plein de graines possibles aux femmes, et elles vont voir celles qu'elles vont replanter chez elles et faire pousser, quoi.
Ouais, montrer la beauté pour qu'on puisse s'éloigner de ce qui n'est pas... Tu vois, pour moi j'adore me dire que je veux que tout ce que je fasse, ça nourrisse l'émergence d'une nouvelle culture qui honore la vie. Mais donc, à chaque fois, je me dis, bah, qu'on peut montrer de beau qui va donner envie, en fait, d'autre chose, quoi, tu vois? C'est ça aussi, c'est pas, on rejette pas quelque chose juste pour le plaisir de rejeter, c'est qu'est-ce qu'on peut vivre, c'est quoi la beauté de la vie qu'on peut vivre? Et je trouve, l'enfantement, c'est tellement un pic d'expérience pour une femme et pour une famille que... C'est à la fois ça peut être dramatique, moins douloureux, et douloureux pas au sens de la douleur de l'enfantement, mais d'un drame, quoi, d'un drame de traumatisme et de choses d'une violence incroyable. Ça peut être un des moments les plus, je sais pas, une source de force pour toute ta vie, quoi. Et ouais.
Oui, mais c'est vraiment ça, moi, qui me motive, en fait, de me dire que dans notre vie, on a plein d'étapes initiatiques, et que la naissance, ça en est une, et que c'est pas... Voilà, c'est pas obligatoire de passer cette étape-là, mais en tout cas, quand on la vit, mais de pouvoir la vivre pleinement, à 100%, de manière consciente, pour aller vraiment contacter tout le potentiel qui est là à l'intérieur de nous. Et comme tu dis, cette force, moi j'adore voir mon regard des femmes après un enfantement, de dire maintenant c'est bon, je suis invincible en fait. J'ai donné naissance à mon bébé et à mon placenta, mais c'est bon. Et j'aime bien rappeler ça en postpartum après, David, t'as vu ce que t'as fait, tu te rends compte, tout ce que t'as traversé comme peur, toutes les croyances que t'as changées. Pour aller vraiment dans cette confiance et dans cet abandon à plus grand que nous, peu importe les mots qu'on met, de Dieu, univers, énergie, que voilà, il y a une force supérieure qui est là et qui nous traverse pendant l'enfantement, et il n'y a rien à faire, juste essayer de faire.
Quand même co-créer un humain dans notre ventre, quoi, je... ou
Oui.
des humains, enfin, je veux dire, c'est un truc de malade.
C'est ça, c'est
T'imagines,
là vraiment honorer
on a donné
l'intrigue.
la vie, quoi. Moi, je vois mes enfants, je me dis, mais des fois, mon mari me dit, tu te rends compte, c'est dans ton ventre, et je me dis, mais c'est ouf. T'imagines si les femmes, si notre culture, si dans les cultures, les mères avaient cette espèce de force intérieure, de... Ouais, c'est comme tu dis, c'est tellement initiatique et tellement ça serait différent, quoi. Parce que finalement, l'enfantement, pour moi, c'est tellement que le début de, je m'en rends compte maintenant, t'as tellement d'autres choix à faire, à poser, pas facile, quoi, à contre-courant et ça, que quand t'as vécu ça, comme tu dis, t'es invincible, quoi, pour ces choix-là. Tu te dis, mais non, on va pas me raconter de conneries, c'est mes enfants, je sais ce que je veux, je sais ce que, tu vois.
C'est ça, il y a un ancrage qui est là pour la suite, en fait. Et autant pour la vie pro que perso, que pour la suite des choix avec les enfants, pour ses choix de vie de femme aussi, se connecter aussi à la puissance de femme qui est là. Il y a des femmes qui me disent qu'elles ont des orgasmes après l'enfantement alors qu'elles n'en avaient pas avant. Donc il y a aussi plein de libérations qui peuvent se faire. Et c'est tellement beau,
Exactement.
même de libération transgénérationnelle. Et alors que ça peut aussi, comme tu dis, être un trauma et ça peut être une zone où la femme, elle s'est sentie vraiment infantilisée, pas respectée. Et avec beaucoup de regrets, beaucoup d'émotions en lien avec la naissance à les libérer par la suite. Et c'est tellement dommage, alors que ça peut être tellement beau. Alors, ça ne veut pas dire que parce que tu accouches à la maison ou que tu accouches en autonomie, que bah, c'est hyper simple et que c'est fluide et que tu accouches en 1 heure. Ça peut être intense, ça peut être
Non, mais oui,
d'une
ça n'a
certaine
rien à voir.
violence
Ça...
et
Mais oui.
intensité, mais ce n'est pas dû à
C'est
l'extérieur,
l'expérience
quoi.
de souveraineté, c'est l'expérience d'être de liberté profonde, pas, tu vois, d'avoir été. Pour moi, c'est une initiation aussi à l'âge adulte. Enfin, on est déjà censé être adulte, mais je pense qu'on vit dans une société où on est resté des grands enfants immatures, quoi. Et d'un coup, de devenir mère, de devenir parent, c'est tellement une purée de responsabilité que de l'avoir vécu de cette manière, ça vient informer tout ce que tu vis. Et je pense qu'on peut toujours guérir de tout ce qu'on a vécu, ça j'en suis certaine. D'ailleurs, je pense que c'est aussi ton travail. Mais c'est dommage, quoi. Pourquoi aller rendre si difficile quelque chose qui peut être si simple et si beau?
C'est ça. Et surtout pour des femmes qui, des fois, ont une image
Ça va?
hyper positive, hyper intuitive de la naissance, et puis qui d'un coup se voit mettre des barrières progressivement par le suivi médical ou par les autres à l'extérieur qui ont des peurs ou mais pourquoi? C'est et du coup en fait moi je me suis dit si je veux vraiment que les femmes elles retrouvent cette souveraineté, qu'elles puissent faire des choix, qu'elles puissent dire non, même dans la gynécologie, hein, pouvoir dire non à un toucher vaginal parce qu'il n'y a pas besoin là, dire non à une pilule, si elles n'en ont pas besoin à ce moment-là, que ce n'est pas le moyen de contraception qui leur convient, enfin bref, c'est vraiment sur tous les plans, dire non à une pénétration qui n'est pas consentie, parce qu'on a peut-être juste envie de câlin, mais peut-être pas de pénétration à ce moment-là dans la sexualité, malgré tout
Oui,
l'amour qu'il y a dans le couple, enfin c'est tout en fait.
aussi honorer quand tu dis de devenir femme, honorer aussi nos cycles. Je trouve la naissance, le postpartum, c'est tellement la grossesse, c'est tellement un cycle spécifique où on expérimente tous ces différents états que après, ça vient aussi informer comment on vit nos cycles chaque mois et honorer ça, enfin honorer notre nature de femme, quoi. Donc comme tu dis, et puis apprendre ce que c'est que le vrai consentement dans tous les domaines de nos vies.
C'est ça. Et donc la grossesse, ça peut être l'occasion de découvrir plein de notions comme ça et de se réapproprier toutes ces valeurs-là, en tout cas de s'aligner vraiment avec qui on est, peu importe après les choix qu'on fait, mais que ça vienne vraiment de l'intérieur et qu'on soit fière et qu'on se sente actrice de la naissance. Et justement, moi je me suis dit, si j'ai envie d'accompagner les femmes à être comme ça, c'est parce que profondément, j'ai envie d'être comme ça. Donc je me questionne régulièrement de où j'en suis, est-ce que ma vie, elle ressemble vraiment au rêve que j'ai envie de vivre? Comment je peux rebouger certaines pièces du jeu. Et donc, bah voilà, je me suis mise en libérale, j'ai osé accompagner les naissances, puis accompagner seule les naissances, et puis quitter mes anciennes collègues, et puis rechanger encore de cabinet. Et voilà, et à chaque fois, j'ai réajusté, et puis jusqu'à en fait sentir l'élan de. Alors oui, merci au Covid qui m'a aidée qui a été un tremplin pour ce choix-là. Mais c'est vraiment à l'intérieur, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait vibrer, vu que la vie est un jeu, bah jouons. Et là, ce serait quoi? Et j'ai senti à l'intérieur de mon cœur, mais vraiment comme une lumière, un truc qu'on pourrait décrire de manière très spirituelle. Et là, c'était tellement flagrant, c'était le grand oui quand j'ai imaginé que j'avais quitté l'ordre des sages-femmes. C'était une libération. Et j'ai fait, ok, bon, bah alors je vais oser. Sauter dans le vide et en ayant vraiment en confiance qu'il y aura de quoi me réceptionner en bas, tu vois. Et effectivement, tout va bien. Et je peux vraiment être la thérapeute que j'ai envie d'être, à toujours être dans l'accompagnement de la femme, comme je décrivais tout à l'heure, de manière globale et sans avoir la contrainte du médical. Dans le sens où c'est vraiment une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête quand on est sage-femme et qu'on accompagne les naissances à domicile, parce que bah, c'est toujours. Moi, je voulais faire du lien avec les hôpitaux, donc je faisais une lettre pour dire bah, Madame Intel a bien accouché à la maison, c'est bon, vous pouvez classer le dossier. Et là, il y a un des hôpitaux du coin qui s'est dit ah, bah ça, maintenant, c'est obligatoire, c'est la lettre que les sages-femmes doivent envoyer, et limite, ils nous engueulent si on n'a pas fait la lettre. Mais là, ça tombe pas rond, en fait, c'était l'inverse, normalement.
Ouais, ils ont l'art de protocoliser les moindres, les élans de
Voilà!
la vie humaine.
Puis si on fait un transfert, comme ça aurait pu être une femme qui avait commencé son travail chez elle et puis qui finit à l'hôpital, bah non, vu que c'est avec une sage-femme, ah bah là on va maltraiter la femme, on va sur-intervenir et faire des sur-interventions quoi, pour rien. Alors qu'une femme lambda, elle n'aurait pas eu ces soins-là ou des lettres en fait, à l'ordre des sages-femmes pour dire Madame Intel, qui est sage-femme, a accompagné telle naissance de cette façon. Moi, on m'a déjà dit que j'étais trop jeune, inexpérimentée. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est lourd à
Oui, il y a
porter
une
tout
vraie
ça.
chasse aux sorcières contre les sages-femmes à AD, ça c'est
C'est ça.
indéniable, je pense, en France.
Et à un moment, je sais pas si le chiffre est toujours juste aujourd'hui, mais il y avait un tiers des sages-femmes AD qui avaient un procès avec l'ordre. Donc c'est l'ordre lui-même qui porte plainte contre ses propres sages-femmes qu'il est censé soutenir. Et c'est rarement une plainte des couples. C'est essentiellement des plaintes,
Non,
enfin,
c'est clair.
jamais. C'est des plaintes de collègues, pédiatres, médecins, gynéco, sages-femmes, voilà. Donc c'est assez hallucinant de vivre dans un monde aussi hostile. Et où il n'y a pas de soutien de la vie. Au lieu de se dire, bah, il y a une femme qui habite loin des hôpitaux, elle va coucher chez elle, bah, genre, tant mieux, il y a une sage-femme qui est là en plus, si besoin, c'est parfait. Ben non, ça ne va
Moi,
pas
tu sais,
être
c'est comme,
valorisé.
je n'aimerais pas la ville, mais une sage-femme que j'ai connue qui avait voulu, qui devait lancer un plateau technique et les obstétriciens ont refusé. Bon, à cause, ça ne rapporte rien si tu fais pas de péri, évidemment, mais c'était aussi, en fait, l'argument, c'était ça se passe trop bien, c'est pas juste. Enfin, c'était complètement hallucinant, l'argument était retourné, quoi. En gros, ça se passe trop bien, ça va pas, quoi. C'est trop bizarre comme logique. Bah, il y a eu la même chose avec les maisons de naissance, c'est comme si. Ah ouais, c'est trop. Enfin, on est dans un drôle une drôle de logique, quoi, parce que les
Faut te
chiffres sont.
justifier pour accoucher dans la physio. Tu veux un plateau technique, une maison de naissance ou une sage-femme AD. Faut se justifier que ton dossier il est vraiment bon et que vraiment tu peux accoucher chez toi alors qu'on devrait être dans l'arrière. Se justifier de vouloir une péridurale ou d'avoir vraiment besoin d'un acte médical et que du coup il faudrait
Exactement,
vraiment
exactement. En
accoucher
fait,
chez toi.
le monde médical devrait être là pour les urgences, et qu'on est très content quand ils sont là et qu'on a vraiment besoin d'eux, mais on est passé dans un. Bah, de toute façon, c'est toute la société, c'est la naissance, je trouve que c'est. La naissance, ça fait longtemps que c'est comme ça, mais là, on voit que ça s'est accéléré à tous les niveaux de. En fait, on peut pas vivre sans eux, et c'est trop bizarre, on doit slalomer pour éviter de se faire injecter.
C'est
Mais
ça.
c'est trop bizarre comme logique, c'est. En fait, on voit la vie par déficiente par nature et. C'est ouais, c'est vraiment ça vient toucher je trouve aux profondeurs des croyances sur ce qu'est la vie humaine quoi la vie sur cette terre mais pour la
Oui, il y a
naissance c'est
vraiment.
hallucinant d'aveuglement enfin moi je sais pas c'est tous les chiffres sont en faveur de en notre faveur on va dire et on en arrive à des trucs d'une aberration ouais.
C'est ça. Et puis, si on veut vraiment des chiffres, il y a le site de l'APAD,
iPad ouais.
donc APAD, pour avoir des chiffres, des sages-femmes, des dossiers
Et
bien
attends, moi je veux
médicaux.
rajouter une petite chose, puisque là on parle beaucoup d'enfantement libre. Les chiffres de l'APAD, ils sont déjà extraordinairement en faveur de l'enfantement à la maison. Mais en plus, on n'a pas de vrais chiffres. C'est-à-dire que par nature, les enfantements libres, comme ce que j'ai vécu, c'est hors complètement de toute
C'est ça.
qualification. Donc toutes les études qu'on voit, certes, c'est intéressant, hein, c'est nécessaire sûrement pour certaines personnes de faire. Mais au fond, tu n'as même pas les chiffres de ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que ça serait si on laissait vraiment les femmes faire, hein, tu vois?
Mais c'est
Mais
clair, il y a un
même
manque
ces
de
chiffres
contrôle
sont
là-dedans.
déjà largement en faveur de l'enfantement à la maison, mais je pense qu'ils sont encore. Enfin, je veux dire, on n'a aucune idée quoi, de ce qui est possible. C'est un truc de fou, hein.
Mais comme c'est encore tabou, il faut le faire de manière un peu discrète en France et tout,
Complètement,
bah, il
ouais.
peut pas avoir de chiffres là-dessus. Mais c'est clair que
Et
c'est
parce que par
dommage.
nature, en plus, ça échappe au contrôle des chiffres. Et ça fait partie aussi des mystères de la grossesse. Et ça, c'est que. C'est un tel décalage, cette société de contrôle permanent où on va mesurer le bébé toutes les 3 semaines. Enfin, j'exagère, mais tu vois, alors que par nature, la vie, elle échappe à ce contrôle-là. Elle n'est pas quantifiable de cette manière, quoi, tu vois. Et ouais, c'est
La nature
vraiment
n'a pas besoin
autre
de nous, hein.
chose.
Les saisons, elles se font toujours, les fleurs continuent de fleurir au printemps et sans avoir notre contrôle, notre aval, la nature
Et
est beaucoup plus
on veut tout
puissante.
quantifier, tout calculer, tout. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on dit. C'est une nouvelle manière de dialoguer et tout ça. Mais quand ils pensent, c'est tellement loin de ce qu'est la vie, quoi.
Mais il y a ce manque de confiance dans le corps de la femme. Et donc, pour moi, le corps de la femme, c'est comme la terre. Enfin, on est pareil. Donc, ben, juste, on n'a plus trop confiance dans la nature. On croit même qu'on a le pouvoir de détruire la planète. Moi, je ne pense pas. Je pense que la planète, si elle veut, en 2 secondes, elle nous
Pareil,
dégage.
on se
Petit
sera
humain
autodétruit
compris.
avant. C'est clair.
Voilà. Et donc, du coup, voilà, le corps de la femme, par essence, il sait enfanter. Et le bébé, il sait se donner naissance et il n'y a absolument rien à faire. Au contraire, juste favoriser l'ocytocine. tout plein d'amour et que la femme soit hyper confiante, alignée avec elle-même, et ça roule. Et en fait, même on voit Ina Megaskin qui a un taux de transfert minime parce que les femmes, elles sont dans leur bulle et que tout va bien et que personne ne les stresse et qu'il n'y a pas de protocole et qu'il n'y a pas tout ça.
Après, ce que tu dis là, ça vient, je pense, le grand sujet, et finalement on parle de plus en plus, mais c'est on a tellement peur de la mort, et que la mort, elle fait aussi partie de la vie, qu'au nom d'éviter la mort à tout prix, on en vient à des aberrations complètes qui, à mon avis d'ailleurs, causent bien plus de morts, ça c'est une certitude, mais parce que ça fait aussi partie des possibles de la naissance, et je pense que c'est ça qui est, moi j'ai trouvé vertigineux de faire face à cette réalité seule, du coup, de bah ouais, la mort est possible, même quand tout va bien. C'est-à-dire, c'est juste partie de l'équation possible, quoi.
Ouais, et c'est important d'en parler durant la grossesse aussi de cette notion-là et de comment je suis avec cette notion-là, puisque dans tous les cas, cette peur-là, elle va être traversée d'une
Évidemment.
manière ou d'une autre, consciemment ou pas. Et dans la phase de désespérance, là, on arrive à la dilatation complète du col. En général, et cette peur peut être là, la peur de mourir ou la peur que, voilà. Et durant la grossesse, il peut y avoir les peurs que par rapport au bébé. Et donc, c'est important de pouvoir le traverser. Du coup, on est obligé de remettre du sacré là-dedans et de se dire, bah, je fais confiance et que si ça arrive, et bah, c'est ce qui doit arriver. Et puis, il y a aussi, si besoin du médical qui est là, je suis en France, c'est peut-être parfait, en fait, que je sois finalement pas très loin d'un système si j'en ai besoin. Et puis peut-être que j'ai juste envie d'accueillir, en fait, mon bébé ben, qui n'est pas en vie à la maison. Et c'est aussi merveilleux comme ça. Et à l'échelle mondiale, la plupart des naissances se font quand même à la maison. Et il y a d'autres cultures qui ont un rapport à la mort qui est complètement différent. C'est bon, bah, c'est pas pour celui-ci, mais on fera d'autres enfants. Et le couple, il est
Tu crois qu'à
là.
l'échelle mondiale, on peut encore dire ça? Parce que Michel Audin, il donnait des chiffres de combien de pourcentage des naissances mondiales ont du Saint-Ocinon. Enfin, et je me suis dit, en fait, je ne sais même pas si mondialement, on a encore. C'est même plus la norme, quoi, la naissance physiologique. La physio, tu vois?
Ouais, bah, en fait, moi je me dis dans tous les pays non développés, tu vois, il y a quand même encore beaucoup
Oui.
de naissances, même si elles sont plus complètement naturelles, parce qu'avec le retour de copines qui ont été faire de l'humanitaire dans certains pays d'Afrique notamment, et elles me disaient, mais en fait, il y a une colonisation en fait de nos
Complètement.
connaissances européennes, et donc ils perdent leurs savoirs ancestraux, mais ils essaient de se caler à ce que nous on a fait, mais donc toutes nos
Les
erreurs.
femmes vont se déplacer, les femmes vont se déplacer pour aller dans des dispensaires, des machins, qui est complètement déjà un sabotage. Enfin, ouais. C'est pour ça que
C'est ça.
je pense qu'à l'échelle mondiale, on a vraiment, c'est un déçu, on a vraiment saboté cet enfantement d'une manière universelle. C'est clair.
Voilà, juste à se reconnecter à
Mais c'est ça,
notre
ouais.
génétique là, en
C'est
fait.
en nous, en fait. Quand je t'écoute, là, quand tu disais que tu avais cette vision de la naissance, en fait, tu ne savais même pas d'où ça venait, tu vois, cette sensibilité. C'est en nous, c'est inscrit en nous depuis tellement de millénaires qu'il faut bien plus que 100 ans de. Enfin, ça fait plus que 100 ans que la naissance est colonisée, mais que, tu vois, cette destruction, elle ne peut pas atteindre les profondeurs. Moi, je crois vraiment qu'il suffit de se reconnecter à qui on est et à ce savoir. Et d'un coup, tout fleurit et tu te dis, ah, mais j'avais tout ça en moi, je ne savais
Ouais.
pas.
C'est ça. Et c'est ce que je vois aussi dans l'accompagnement de la sexualité, de l'intime, du périnée. Tout ce potentiel-là orgasmique, l'intelligence érotique, elle est là dans le corps. Même si le corps a pu être bafoué, violenté, tout, enfin, bref, ben, tout ce qui a été vécu peut être vraiment pensé et recouvert de douceur pour aller au-delà. Et puis refleurir son jardin intérieur, quoi. Et c'est vraiment, vraiment magique et possible. Et moi, je l'ai vécu dans le sens où j'ai pas eu de trauma dans cette vie-là, en tout cas, mais dans le transgénérationnel, oui. Et donc, moi, j'ai découvert ma sexualité avec du vaginisme. Et c'était horrible de me dire, mais voilà, je ne comprends pas. Je n'arrivais pas à sortir de ça et de voir qu'en fait, si tout est possible, et j'ai pu me reconnecter grâce aux outils du tantra, grâce aussi à ma vision sur la naissance, il y avait plein, plein de choses que j'ai mis en lien. Et pour aller juste reprendre conscience de mon périnée et de mon ancrage, du coup, de ma structure, de mon bassin, de toute ma force. Et c'est juste merveilleux. Et c'est le même processus, je trouve, que pour la naissance, de se réapproprier son corps, de se réapproprier sa vision, et puis de casser toutes les croyances limitantes qu'il y a sur la
Et
sexualité et
enlever le
l'enfantement.
voile de honte et de culpabilité qui entoure notre corps, qui entoure notre rapport à notre corps et du coup à notre intuition, parce que tout est lié, enfin, on est dans notre corps. Et ce que tu dis,
Ouais.
c'est, je pense qu'il y a des femmes, c'est par la naissance qu'elles vont arriver à ce chemin de reconnexion à leur sexualité, à leur être sexuel, enfin, tu vois, à leur personne. Et puis d'autres femmes, ça va être d'abord ce chemin de reconnexion qui les mènera à la naissance de leur, enfin, tu vois, de leur rêve, Mais ça va ensemble parce qu'on est toutes, déjà on est qu'une. Enfin, mais aussi parce que dans la déconstruction des croyances, il y a la naissance, mais il y a toute cette honte qui est liée au corps et à la sexualité qui vient nous impacter, quelle que soit notre culture et notre, tu sais, d'où on vient, quoi. Parce que je
C'est
pense que
ça.
c'est, ouais, c'est profond.
Et je trouve ça hyper intéressant d'aller explorer cette partie-là, qu'on est en désir d'enfant ou pas, en fait, juste pour s'épanouir en
Exactement,
tant que
oui.
femme. Et ce sera ça de fait pour la grossesse. Il n'y aura pas.
Ouais, c'est
Voilà, ce
ça. Et en plus,
sera.
c'est tellement lié au fait d'être ce que tu disais, de vivre la vie de ses rêves, d'être soi, que ce soit dans notre maternité, on va incarner, va être la mère qu'on. Parce qu'on sait pas, je pense qu'on devient mère avec plein d'idées sur la maternité. Et en fait, on découvre finalement ce que c'est de devenir femme dans cette. Tu vois? Mais d'être juste, en fait, d'être qui on est, quoi. D'être pleinement soi-même, de vivre pour le beau. Parce que tout ce chemin-là, c'est pas au nom de. On déconstruit pas pour déconstruire, on déconstruit juste pour être plus heureuse, plus, tu vois, plus épanouie, plus vivante, plus nous-mêmes.
Oui.
Ça, en fait, l'enjeu, c'est pas des idéaux, c'est pas des idées, c'est vraiment enfin, juste être, quoi, tu vois, rayonner cette vie qui nous... Ouais.
Beau.
Non, mais c'est ce que, ouais, c'est ce que je t'écoute, je me dis, c'est tellement exactement ça, c'est ce chemin de femme, quoi, d'être femme, enfin, et tu sais, je me dis, c'est pas fortuit dans une culture qui est en train de galvauder aussi complètement les mots femme, homme, qu'est-ce que c'est qu'être, en fait, dans notre corps, dans notre sexualité. Il y a une telle blessure à ce niveau-là que se réapproprier ça, notre sexualité, notre personne sexuée, c'est, je pense, c'est ce qu'on a à vivre pour des générations futures, quoi. Tu vois, c'est ce qu'on a à
Ouais.
transmettre aussi. De vraiment réaliser la grâce que c'est, quoi, d'être femme, d'être homme, mais loin de tous ces clichés, cette souffrance aussi culturelle qui entoure ces réalités-là.
Ouais, de s'autoriser à être aussi pleinement nous-mêmes, quoi, d'assumer nos désirs, d'assumer tout ce qui est là à l'intérieur de notre ventre. Et notre ventre, il est souvent anesthésié, en fait, et peu
Colonisé.
conscient, colonisé, coupé du cœur, et ce cœur. Dans une de mes transmissions, j'ai reçu l'idée du cœur hémorragique, quoi, qui donne, la mère qui donne à tout le monde, mais en fait qui s'oublie elle-même et qui ne prend pas soin de son propre réservoir avant, et parce qu'elle est
Ouais,
trop
en
curieuse.
fait, on a appris à donner encore sous ce mode de la culpabilité et de la honte, et pas du fond de l'amour surabondant, justement, de cet amour qui est hémorragique, mais qui déborde, en fait. C'est une surabondance qui se donne. C'est pas, tu vois, c'est pas un sacrifice au sens de je vais me vider totalement de moi et je vais dépérir, quoi. Et on a perdu cette notion de surabondance intérieure, de vie. Et du coup, on devient mère, on donne, on s'épuise. Et puis alors après, on fait, c'est bien, hein, c'est à la mode, on parle beaucoup de dépression postpartum et tout. C'est bien à la fois de parler, de la normaliser que c'est possible de pas être bien. Mais on dit pas en fait la vraie raison. On dit pas que c'est pas censé être comme ça et que, tu vois, c'est pas normal. En fait, c'est pas pathologique. On est en dépression parce que ce qu'on vit, c'est complètement anormal par rapport à ce qu'on est censé vivre.
Ah
Tu
oui,
vois?
je te rejoins tout à fait sur ce discours-là. C'est bien qu'on en parle, mais il ne faut pas que ça devienne une norme, parce que c'est pas normal.
Normal et c'est pas une pathologie, c'est juste une réaction normale. Enfin, pour moi, là, déjà, la maladie, c'est ça, c'est de dire ça dit quelque chose, quoi, qu'il y a quelque chose de désaligné. Une femme qui, je veux dire, ne reste pas allongée après la naissance, n'est pas nourrie, n'est pas entourée, n'est pas massée, c'est normal qu'elle se sente pas bien. Qui vit ça aujourd'hui? Qui vit vraiment un postpartum comme on est censé le vivre? Bah, on est très très peu déjà à se l'offrir, à pouvoir se l'offrir, et puis à oser, quoi, d'un coup te dire attends, je vais prendre soin, j'ai le droit de m'arrêter, j'ai le droit
J'ai le
de me
droit,
laisser.
sans culpabilité.
Sans culpabilité, tu sais que moi j'avais fait tout ce travail sur l'enfantement et quand il s'est agi du postpartum, parce que j'avais aussi fait tout un travail, quand c'était mon postpartum, d'oser dire, la femme qui m'a accompagnée m'a dit comment tu l'imagines ton postpartum? Et j'imaginais très bien mon enfantement, mais oser dire à voix haute que j'imaginais juste rester allongée et qu'on allait me donner à manger et qu'on allait se prendre soin de moi, oh, c'était un saut, genre j'ai mis du temps à y arriver, quoi, tellement on est conditionné à cette culpabilité de ça serait. Bon, voilà. Et donc tous ces désalignements font que oui, évidemment, on est malade, évidemment, on est dépressive, mais c'est pas normal. On n'est pas censé être comme ça. C'est pas censé être si dur. On parle beaucoup, c'est de la dureté de la maternité, que tu sais, de ce regret, ça, mais c'est pas normal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal dans des conditions pareilles, d'aller mal, mais c'est pas la norme. Il faut qu'on se réapproprie ce que c'est qu'être, tu vois, ce qui est normal, quoi. Selon
C'est ça.
la norme, c'est la physiologie. Quand je dis norme, c'est pas des normes culturelles, c'est la norme de que nos corps nous disent ce qu'ils ont besoin.
Et pour moi, ça passe par retrouver notre ancrage, en fait, pour pouvoir prendre des choix qui sont vraiment alignés avec ce qu'on veut vraiment et pas avec ce qu'on croit ou ce qu'on nous a appris ou ce qu'on pense qu'il devrait se faire. Et ça passe aussi, ça peut passer en tout cas par le corps et de se reconnecter à son périnée, à son bassin, vraiment sa structure en bas, quoi, ou les premiers chakras. Et en tout cas, moi, c'est ma vision du corps, là où on peut être, où je peux moi-même être très mentale. Et du coup, je suis déconnectée du corps. Et là, de revenir dans le corps, de revenir dans les sensations, ça permet de redévelopper cet ancrage et de pouvoir faire des choix qui semblent alignés avec qui on est, quoi.
Tu veux parler un peu davantage de ça, du périnée, enfin de ton, ce que tu viens de dire, de ton rapport à ce centre de nous et peut-être aussi de ton programme. Je ne veux pas aller non plus encore sur tes étapes, mais comme c'est sûrement ce que tu fais dans ce programme,
Ouais.
c'est quoi pour toi ce centre et quel est le potentiel de se reconnecter à notre ventre et à notre
Ben
périnée?
en yoga, en tantra, on parle des chakras, donc des centres d'énergie. Donc, on a un au niveau du périnée, du coccyx, un au niveau de l'utérus, en tout cas sous le nombril. On parle de la kundalini, qui est cette énergie de vie, mais pas que l'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie de survie, de qu'est-ce qui me met
Béatrice
en.
aussi, ouais.
Créatrice, qu'est-ce qui me met en élan dans la vie, pourquoi je me lève le matin, pourquoi j'ai envie de vivre en fait. Et cette énergie-là, elle est souvent endormie dans nos sociétés voilà, européennes, toutes contrôlées, et par des respirations, par du mouvement, par de la danse, par des visualisations, on peut aller éveiller cette énergie-là, qui est souvent représentée comme un serpent enroulé sur lui-même dans le fond du bassin, et quand il s'éveille, il va monter le long de la colonne vertébrale et cheminer jusqu'au sommet du crâne, jusqu'à, voilà, entre les deux yeux, le troisième œil, l'œil de l'intuition, et pour aller nous libérer, être plus consciente de nos émotions, de nos croyances, de notre passé, du bagage transgénérationnel, des parents, c'est vraiment un art, le tantra, qui passe par soi. Déjà me connaître moi et moi-même éveiller mon énergie, savoir comment je peux oser rayonner qui je suis, comment je peux me nourrir moi-même d'amour et puis nourrir l'amour dans mon extérieur, comment je peux être connectée à mon intuition, comment je peux être connectée à mon ventre, qu'est-ce que mes tripes, elles me disent vraiment, quoi, que le non, ils viennent de là, que le oui, ils viennent de là. Là, il y a une femme dans le programme justement qui me disait, elle est en ménopause, que là maintenant, son oui, il a une vraie saveur parce qu'avec les années, elle a appris à dire non. Et que quand elle dit oui, c'est un vrai oui. Et je me disais, waouh, ouais, mais c'est tellement beau vu comme ça. C'est pas le oui, ben oui, si tu veux, oui, pourquoi pas, oui, je vais te faire plaisir. C'est le vrai oui, quoi. Et du coup, en se connectant au périnée, qui est en fait pas vraiment beaucoup de muscles, hein, c'est que 20% de muscles et 80% de fascia, qui sont les enveloppes des tissus, des organes, des ligaments. En fait, dans ces fascias, il y a énormément de mémoire et d'émotions qui sont cristallisées. Et donc, en remettant du mouvement, en remettant de la conscience, on va remettre tout ça en mouvement et aller libérer les vieux traumas qui ont pu être là, qui nous appartiennent ou pas. Mais ça peut être rien qu'un regard dans l'enfance qui a été malsain par l'oncle un tel. Ça peut être un toucher vaginal à un moment donné par un professionnel de santé qui n'était pas fait de la bonne façon et qui a été vécu comme un mini trauma, une naissance, bref, tout ce qui a pu être vécu ici et qui met un voile sur notre puissance en fait. Là, l'idée, c'est de tranquillement, mais avec beaucoup de douceur, ma vision, c'est ça. C'est pas on va revivre le trauma, qu'est-ce que tu as vécu, rappelle-toi. Non, on vient juste respirer, mettre du moelleux, du mouvement, et du coup, hop, ça vient se libérer et il n'y a pas d'attente. Voilà, ce qui doit se libérer se libère, ce qui ne se libère pas, c'est pas pour maintenant, ce sera plus tard ou avec une autre expérience. Donc, moi, ouais, ma méthode, c'est le tony. Ça veut dire juste tonus musculaire. C'est aussi ce que j'ai retrouvé en me formant en gynécologie holistique, en fasciathérapie, en tantra aussi, et dans certaines versions du yoga. L'idée, c'est juste par des expériences que je guide par la voix, d'aller sentir l'espace du périnée, l'espace du bassin, et rien qu'en remettant la conscience là, ça redonne de l'espace, et ça re refait exister ces zones-là qui ont pu être tabous, oubliées, anesthésiées. Et puis on va remettre du mouvement et sentir comment ça bouge, et essayer de décrire toutes les sensations corporelles, donc c'est très corporel, et pour moi, c'est comme une méditation active parce que mon mental, il est orienté vers l'observation de ce que je sens dans mon corps. Et du coup, il n'est pas dans d'autres pensées. Donc, je suis vraiment dans l'instant présent. Et puis, sentir comment le bassin prend sa place, comment je peux prendre ma place dans mon bassin, l'habiter pleinement et être souveraine de ce royaume-là. Comment je peux sentir la colonne qui vient bouger à partir du bassin jusqu'au crâne. Comment le cœur, il est en mouvement aussi. Comment les seins peuvent être inclus là-dedans. Donc là, dans mon programme, c'est vraiment centré sur le bassin, périnée et sur le mouvement aussi de la colonne. Il y a un peu des choses dansées et des méditations, en fait. Et tous ces exercices corporels avec des balles de tennis, avec voilà, des automassages, des respirations. Enfin, c'est pas tant des respirations, mais c'est des mouvements qui vont libérer le diaphragme et qui, du coup, vont nous faire prendre conscience de notre respiration qui va être peut-être plus ample, plus libre.
Remettre du mouvement dans cette... Oui, remettre du mouvement, quoi. C'est le mouvement,
C'est
faire
ça.
circuler cette énergie de vie et venir. Enfin, avec ce que tu as dit sur la douceur, aussi cette compassion, pour nous-mêmes, quoi, et pour ce. Ouais.
C'est ça. Et c'est comme
C'est
l'enfantement, en
beau.
fait, une question de mouvement. Toujours pareil, le mouvement, c'est la vie.
Et donc, ton
Donc.
programme, tu commences lundi, c'est ça? C'est
Oui.
le 6 mai, le
Le
9
9.
mai? 9 mai.
Le 9 mai, c'est la deuxième session du programme. Donc, pendant un an, il y a ce
Un
groupe de
an,
femmes qui ont accès au groupe WhatsApp pour échanger, pour se soutenir. Il y a cinq lives avec moi pour faire en mode cercle de femmes. Et je suis assez étonnée de l'authenticité, de la vulnérabilité que je peux voir, même en étant à distance, sans faire un
même en
cercle physique.
ligne, ouais, c'est magique.
Voilà.
Même en ligne, il y a une vraie connexion qui se fait. Moi, je le vis tout le temps aussi.
C'est assez, ouais, assez fou. Donc, dans ces lives, je peux proposer déjà que chacune puisse partager son ressenti sur ce qu'elle vit en ce moment et puis sur les pratiques. Et puis pour moi, s'il y a des choses à modifier aussi dans le programme, et un apport théorique. Donc là, on va plus s'ouvrir en général sur la sexualité. C'est quand même beaucoup ce sujet-là qui revient, même si on peut être venir pour des problématiques périnéales de vaginisme, de béance vulvaire, d'un poids, d'une descente d'organes, des fuites. Enfin voilà, il y a beaucoup en fait la question derrière de il y a peu de libido, il y a peu de conscience du bassin et comment je peux aller me connecter à mon corps et à ma féminité. Donc on aborde beaucoup
Ensemble, de toute
ça.
façon, quand on guérit, c'est tout cet aspect émotionnel et on vient guérir aussi le corps dans ses problèmes physiques, ça c'est certain,
C'est
quoi.
ça. C'est ça. Donc les deux
Ouais,
sont liés.
tu vas derrière le symptôme pour aller voir la cause et inviter à la reconnexion plutôt qu'aller chercher à enlever un symptôme, on va aller chercher ouais, à se reconnecter, quoi.
C'est ça. Et je vois tellement de guérison et de libération par ces pratiques-là que j'ai vraiment envie que les femmes y aient accès. Donc, c'est ce que je propose après dans les salles de femmes ou dans des ateliers tantra, dans des festivals ou vers chez moi. Et là, je me suis dit, il faut que ce soit en ligne parce qu'il y a aussi des femmes qui m'ont demandé, après les séances avec toi, j'aimerais recontinuer à faire ces exercices avec ta voix juste qui me guide en audio. Et je me suis dit, oui, c'est pas bête. Et pour des femmes qui ne sont pas à côté de chez moi et qui auraient envie de ça. Et puis surtout aussi de pratiquer chez soi. Moi, j'aurais eu besoin, durant mon errance médicale et autres, de trouver un genre de programme comme ça où j'avais des pratiques corporelles très douces et avec le temps de le faire, d'être chez moi et d'avoir le temps de ces pratiques-là.
Oui, en plus, ça va aussi redonner le pouvoir à chacune de savoir qu'on a tout en nous et on a besoin du soutien les unes des autres et voilà, aussi des transmissions, mais on peut vivre seul aussi ces choses. Et ben, tu sais, dans une culture de la rééducation du périnée, on peut dire c'est chouette par rapport à d'autres pays, mais en fait, il n'y a aucune reconnexion à soi et on peut faire ce
C'est
chemin
ça.
seul aussi. Bon, ouais. Moi, j'ai vécu ça avec j'ai eu une descente d'organes après mon deuxième bébé et après mon troisième un peu encore, et j'ai tout fait tout un chemin aussi de reconnexion à mon ventre et de. Simplement de mouvement et de, comme tu dis, de conscience en fait dans cet espace et c'est guéri. Enfin, je veux dire, je ne voyais pas ça comme une maladie, mais c'est parti quoi et ça va mieux. C'est possible
Ouais.
quoi, tu vois. Il n'y a pas
Et on
non
voit
plus besoin
vraiment
qu'on aille
le
mettre le doigt dedans par quelqu'un d'autre pour que ça. Voilà, au contraire, c'est autre chose qu'il y a derrière en fait, ces symptômes-là. C'est.
C'est ça. Moi, je ne pouvais pas à la rééducation du périnée classique, dans l'idée qu'il faut se remuscler, alors que le périnée, il est déjà hyper en tension. C'est comme si on disait qu'on allait muscler notre diaphragme. On sait tous que le diaphragme, en général, on respire pas bien et qu'il est un peu bloqué. Et notre périnée, c'est un diaphragme. On dit que c'est le diaphragme pelvien.
Oui,
Il bouge, il respire,
mais
nos
on aime
tempes.
bien l'appeler le plancher, alors du coup un plancher c'est rigide et on a du mal à
Oui.
imaginer que ça respire.
Voilà. C'est bien dommage. Moi, j'aime bien l'idée du plancher. Pour dire que s'il y a beaucoup de choses qui sont
Soutien,
au-dessus, qu'il y a
ouais.
beaucoup de pression, et ben le plancher va craquer en effet. Et donc souvent en postpartum, il y a beaucoup de choses que la femme porte et de charge mentale, etc. Donc oui, ça se ressent au niveau du périnée parce qu'elle n'est pas allongée, parce que voilà, j'aime bien utiliser cette
Oui, c'est
image-là.
vrai, mais tu vois, je trouve que le diaphragme vient soutenir aussi toute la. Enfin, il vient soutenir aussi, il est aussi un soutien, mais il est flexible, il respire, on l'imagine movible, tu vois. Et moi,
C'est
cette
ça.
image, pouf, elle m'a Et ben, je me suis dit, ah, c'est ça, en fait, la différence, tu vois.
Et
Donc...
plus le périnée est souple, mobile et conscient, et plus il fait rebond, et donc il peut aussi faire remonter l'énergie. Et donc notamment dans l'orgasme, on a besoin du périnée pour faire monter l'énergie sexuelle. Et donc on peut développer sa capacité orgasmique rien qu'en reprenant conscience de son périnée. Donc je trouve ça assez magique. Et c'est pas en allant le muscler, mais finalement c'est biaisé parce qu'on va muscler que certaines zones précises du périnée et pas l'ensemble. On va créer plus de crispation qu'autre chose. Et on voit les rééducations du périnée, elles sont efficaces sur le moment parce qu'on contient tout, on est complètement en constriction. Mais au long terme, ça marche pas. Parce qu'en fait, le problème de fond, il n'est pas résolu, l'émotionnel n'est pas résolu, la conscience n'est pas là.
Alors en fait,
Donc,
c'est comme avec la naissance, il y a une méconnaissance totale de la physiologie et de une conception même du corps humain et de la vie, où on a séparé en fait l'énergie et les émotions du physique comme si c'était séparable. Et ouais, c'est la même chose en fait, mais c'est clair que ça va ensemble aussi, pour moi, dans le chemin de liberté et de souveraineté de la naissance libre. Il y a aussi ce chemin de reconnexion à son corps et à sa sexualité. Voilà, exactement ça, quoi, à son être de femme. Ça va tellement ensemble. C'est trop
c'est
beau.
ça. Et que je peux toucher mon sexe, je peux faire un toucher vaginal si je veux, je peux aller regarder mon col, mais moi d'abord, avant un professionnel de santé, ça m'appartient en fait. Et combien de femmes m'ont dit, mais moi j'ai jamais osé toucher à l'intérieur dans cette grotte secrète, mystérieuse, et on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais par contre, il y a eu pendant 10 ans, 15 ans, plein de touchers vaginaux, des examens, des frottis, des machins. Ben, c'est pas normal.
Exactement, ouais.
Donc je pense que je vais bientôt faire des ateliers de self-help, justement, pour voilà, se soigner soi-même, dans le sens d'aller se reconnecter à son corps et pouvoir être gardienne de sa santé avant de la confier à quelqu'un d'autre.
Qui a priori n'a pas non plus compris trop ce que c'était.
Voilà.
Ça, c'est mon opinion, je suis obligée de la dire. C'est bon.
Oui.
Mais oui, c'est clair. C'est clair, si on change, en fait, pour moi, c'est tellement un changement de paradigme autour de ce que ça veut dire la santé et la conception de ce que c'est être en santé. Et enfin, je sais pas, une fois que tu as fait ce saut, je prétends pas l'avoir fait à 100% dans le sens je saurais de quoi je parle, mais je sais pas, ça me parle, enfin, il n'y a plus rien qui me parle de l'ancien modèle, tu vois, où on va voir un symptôme, on va aller faire des examens pour les mesurer. Le simple fait d'observer quelque chose, ça modifie la réalité. Donc, t'as ton diagnostic. Qu'est-ce que tu fais avec ton diagnostic? Qui tu es avec ton... Aujourd'hui, c'est pareil, on a libéré la parole sur tous les problèmes gynéco, l'endométriose et tout ça, mais c'est devenu presque une étiquette et une... On est fier de notre pathologie, et comment tu veux guérir une fois que tu as fait de ton identité, ta pathologie? Tu vois, et c'est
C'est ça. Et c'est
tout
ce que
ça,
j'ai
en fait.
traversé, c'est ce que j'ai écrit là dans un article justement sur pour parler du programme Périnée Vivant aussi, de parler de ce que j'ai vécu par le vaginisme. Une fois que j'ai découvert ce que c'était grâce à une copine sage-femme qui m'avait envoyé un article sur ça, je me disais, ok, c'est du vaginisme, trop bien.
J'ai
Oui, et
enfin,
alors?
oui, j'ai quelque chose, on met un nom sur ce
C'est
qu'on est en
une
train de...
reconnaissance, donc c'est déjà nécessaire d'avoir un mot. Donc là, l'endométriose, ok, il y a un mot, maintenant c'est globalement connu, même chez des professionnels de santé. Et alors, en fait, derrière, il n'y a pas de solution vraiment holistique, globale, complète pour accompagner. Moi, on m'a proposé pour le vaginisme des dilatateurs vaginaux, des rééducations vaginales, enfin périnelles avec des sondes, avec des touchers vaginaux. Mais du coup, c'est encore mettre quelque chose dans le vagin et on parle peut-être du principe qu'il faut absolument rentrer quelque chose dans le vagin. Ben
En fait, on
non.
a perdu on a des technologies de plus en plus poussées extérieures et on a perdu notre technologie intérieure. On a, je veux dire, tu vois, on a cette technologie intérieure et on ne sait pas l'utiliser.
Et souvent, on
Donc
sait intérieurement ce qu'il faut. Moi, je voyais bien que ça n'allait pas. Je voyais bien qu'il y avait un truc émotionnel, psychologique, mais à ce moment-là, j'étais enfin, pas ado, mais comme tu dis, on est enfant très, très grand. Donc, voilà, dans la vingtaine, qui je vais voir? Ben ouais, une sexologue qui est médecin, qui elle me refait un toucher vaginal, me refait écarter les jambes. Je me disais, c'est pas ça. Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je connaissais pas encore bah, l'hypnose, la sophro, le tantra, toutes les approches holistiques qui allaient vraiment au fond des choses et pour me permettre de me réapproprier mon corps. Et voilà, il y a du chemin, quoi.
un vrai thérapeute déjà, enfin c'est pas, je pense à ça en t'écoutant, un vrai thérapeute, il ne devrait pas créer une fidélité avec son client, parce que le principe même, c'est que tu vas donner les outils. Tu vois, il y a quelque chose de tellement tordu dans notre culture de la médecine où en fait on est des clients à long terme, quoi. Toute la vie de nos. C'est trop bizarre comme logique. Enfin, je veux dire.
Mais
Enfin
c'est
bon.
génial ce que tu dis. C'est ce que j'en parlais l'autre jour, je sais, avec une femme, de Quand j'accompagnais les naissances à l'hôpital, même quand j'étais encore étudiante sage-femme, parce que j'ai jamais travaillé en tant que sage-femme là-bas, ben, dans la dernière année, on est quand même assez autonome. Il y a
Encore, ça
des
va.
femmes qui venaient avec des chocolats, des grands bouquets de fleurs, des lettres, des mots. J'étais, waouh, j'avais une grande reconnaissance et j'étais fière de ça, de me dire, j'ai quand même accompagné du mieux que j'ai pu dans ce système-là. Et en fait, en voyant les naissances à domicile, j'avais plus autant de cadeaux et là, de moins en moins, voire pas du tout. Et enfin, oui, non, vraiment pas. Et je me disais un peu, bon, mon ego, ben, quoi, non, c'est pas cool, c'est quoi la différence? Et je me suis dit, en fait, mais c'est génial, c'est que les femmes, elles ont conscience que je ne les ai pas accouchées, elles ont enfanté par elles-mêmes, et donc c'était pas grâce à moi, moi j'étais juste gardienne de l'espace, et ça a sûrement amené une sécurité, mais que c'est elles qui sont actrices, et donc elles ont juste à se gratifier elles-mêmes, mais pas à moi à me mettre sur un piédestal et un trône comme quoi, grâce à la sage-femme, j'ai pu accoucher. Et je me dis, mais en fait, c'est génial que j'ai plus de cadeaux comme ça. On a une reconnaissance dans le discours. Et je me dis, mais ouais, c'est parfait.
Ouais, c'est trop beau ce que tu viens de dire. Ouais, c'est trop beau. C'est la différence de, c'est la différence du positionnement qui est juste ou pas juste, évidemment. Mais
C'est ça.
c'est clair. On n'est pas, y a, en fait, on a personne à sauver, quel que soit notre métier. Hein, mais c'est problématique en fait ce positionnement du sauveur et du sachant par rapport à l'autre qui ne sait pas et qui. Ouais. Et
Mais
c'est
c'est
comme on
là
a dit au début, c'est un loop en plus qui se nourrit mutuellement. Donc.
Et cette pression que je pouvais sentir en tant que sage-femme, c'était ça aussi. Parce que comme tu as ce statut médical et comme on te paye pour ça, bah, tu dois savoir, tu dois avoir la solution. Et s'il se passe quelque chose de mal, c'est ta faute. Même si dans l'accouchement à domicile, il y a toute une démarche voilà, d'autonomisation et que ce n'est pas vraiment là-dedans. Parfois, comme tu dis, on fait tout l'un ou tout l'autre. Et des fois, c'est plus simple d'être complètement en dehors du système que d'essayer de trouver le juste milieu entre les deux. Et dans ce juste milieu, voilà, c'était vraiment pas évident. Et des fois, je sentais ce poids de responsabilité que j'avais sur mes épaules, sur des choses qui ne m'appartiennent pas. En fait, je n'ai pas le pouvoir de vie de mort sur un être humain, ni l'hôpital, personne.
Ni la mère, ni personne, en fait. C'est quand on aura réalisé ça, qu'on arrêtera de s'occuper des affaires de Dieu.
C'est ça.
Mais c'est ouais, c'est clair. Et le fait d'être. Une fois que tu. Enfin, après, je pense qu'on retrouve ces mécanismes dans tout, toujours, tout le temps. Ça fait partie de nous et on doit tout le temps travailler pour être le plus libéré de ça possible. Mais quand tu sors quand même de ce schéma, justement, autorité médicale et patient. Pas patient tout court, le mot patient. Enfin, et que tu rentres dans une relation enfin, ouais, horizontale, quoi, d'accompagnement. Ça change tout, je pense. Ouais.
Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Je me rappelle que durant nos études, ils nous disaient qu'on devait être le sachant, on devait vouvoyer la personne, on devait avoir la blouse blanche, qu'on était derrière le bureau. Et moi, je me disais, mais hors de question, en fait, moi, mon cabinet médical, ce sera un salon où on boit le thé, où je suis assise à la même hauteur que la femme en face de moi, que le couple en face de moi, et je n'ai pas de tenue médicale. Je suis habillée comme chez moi et j'étais même pieds nus. Donc, comme ça. Et je suis toujours d'ailleurs. Et juste normal, en fait, c'est bah, bienvenue chez moi et je vais vous accompagner chez vous.
Bienvenue dans l'humanité, bienvenue dans des
Voilà.
relations humaines normales. Parce que tu sais, dans toute mon élaboration avec Elisabeth, mon amie, non, et bientôt ma collègue, et toutes les femmes avec qui je parle de ça sans cesse, je me rends de plus en plus compte qu'à la fois, on est faite pour enfanter seule, je pense, seule au sens cette solitude aussi face à la réalité de la vie. Et idéalement, comme dit Liliana, les mœurs, justement, encore quelques jours, même quand il y a quelqu'un, elle ne devrait pas être là, laisser la femme seule. Mais en même temps, on a cette soif d'être vue, d'être soutenue, d'être quelqu'un qui garde l'espace, que tu as dit le mot gardienne de l'espace tout à l'heure. C'est tellement ça, en fait. Ce rôle, c'est que ça. Et en même temps, c'est ça au sens où c'est pas que ça, c'est énorme, en fait, de savoir être là sans intervenir, sans projeter ses peurs, sans se positionner comme le sachant, en étant juste là et en même temps en tenant cet espace réellement, parce qu'il s'agit quand même, chaque personne amène son énergie, c'est une grosse responsabilité en fait d'être là. Mais honorer ce moment sacré, moi tu vois, j'ai enfanté seule, mais je voudrais avoir une femme la prochaine fois à mes côtés pour l'après, aussi les premières heures, toute la suite, quoi. L'enfantement en lui-même, finalement, c'est rien. Enfin, t'as tout les jours qui suivent. Et je pense qu'on a, ouais, moi, on a soif, beaucoup d'entre nous, de trouver cette justesse de relation entre femmes, en fait, de femme à femme qui se soutiennent, qui se tiennent l'espace les unes pour les autres, qui prennent soin les unes des autres, quoi, le mot soin, mais le vrai mot de soin. Et c'est pas l'enfantement libre, c'est pas la solitude. Malheureusement, ça l'est beaucoup pour beaucoup de femmes par défaut. Et même si on peut aussi vouloir être complètement seule, il y a quelque chose de magique dans le fait d'avoir des femmes à ses côtés qui ont compris tout ça, qui vont être là sans être les sauveuses, mais qui vont juste être là pour, tu vois, célébrer aussi le sacré dans la banalité de la naissance, qui est la chose la plus simple et en même temps une des plus sacrées qu'on peut vivre, quoi.
Ouais, c'est exactement ça, c'est trop beau. Et puis, de se laisser se déposer dans les bras d'autres femmes qui vont prendre soin, juste voilà, dans la vraie sororité des femmes présentes et qui ne sont pas là pour juger, critiquer, t'imposer de faire autrement, juste à te soutenir là, en présence.
Ah, amen. Mais tu vois, c'est ça qu'on appelle de nos voeux. Et moi, je pense, je vois, enfin, on voit que ça vient de plus en plus de femmes veulent ça et c'est ce qui arrive, quoi. Enfin, on écoute, c'est trop beau. Et donc, alors, ton programme, il s'appelle Périnée vivant. Il commence lundi. Il y aura d'autres sessions, celles qui écouteront ce podcast à l'avenir. Et puis, tu accompagnes aussi, j'imagine, chacune de manière aussi personnelle. Tu peux faire des accompagnements individuels, c'est ça?
Oui, là le programme Périnée vivant, donc je disais, c'est un accès pendant 1 an en contenu vidéo et audio. Il y a 4 mois vraiment d'accompagnement de groupe avec les lives et après le reste, c'est vraiment en autonomie. Ensuite, bah, je fais l'accompagnement même à distance en vidéo pour les femmes, que ce soit en gynécologie, durant la grossesse, en postpartum, même si la personne veut des étapes de conscience du périnée en individuel, c'est possible aussi.
Quel que soit l'âge, quelle que soit l'étape de vie, en fait.
Voilà.
Ça
Et
accompagne
tout ce
la
qui est
femme
aussi
dans toute son histoire.
ouais, voilà, une sexualité, trauma, voilà, tout ça, c'est vraiment ce que j'aime. Après, bah, des ateliers, et j'aspire vraiment à pouvoir bouger dans les pays francophones pour proposer mes ateliers sur la naissance, sur le tantra, et pouvoir combiner vraiment les deux, en fait, à l'approche sexuelle de la naissance, finalement. Et même faire des conférences sur tout ça. Donc là, j'adore faire des podcasts et merci encore à toi parce que voilà, c'est ces messages-là qu'on partage et c'est important pour moi qu'ils soient connus, comme tu disais, pour que les femmes puissent faire ce choix-là, si c'est celui qui vibre avec ce qu'elles ont au fond d'elles. Et après, sinon, en local, je fais voilà, des cercles de femmes, je suis en région PACA, dans le
T'es en
sud-ouest,
type, c'est ça?
à Antibes.
En
Voilà. Et il y a des
2023, en tout cas.
Voilà, en 2023, à Antibes. Et retraite entre femmes, où là, voilà, il y a des festivals où je participais pour des ateliers de tantra ou sur le périnée. Et, bah, tout ça, c'est vraiment lié, en fait. Je pense que je vais évoluer à fusionner encore plus toutes ces notions-là que j'ai dans le futur. Je sens que ça va bouger encore.
Magnifique. Merci beaucoup, Alexandra.
Merci.
Quelle joie t'avoir entendu. Je pense qu'on pourrait parler des heures, n'est-ce pas?
Oui.
Mais merci de toutes les belles choses que tu as partagées, d'avoir fait ce chemin toi-même aussi pour pouvoir, ou d'être sur ce chemin, parce qu'on n'a jamais fini le chemin, mais d'être sur ce chemin pour en témoigner et puis pour partager de ce que tu découvres et ce que tu. Ouais, merci beaucoup, beaucoup.
Merci à toi.
Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter, le commenter, le partager pour m'aider à le faire connaître. Et si tu souhaites témoigner d'un enfantement libre, d'un parcours d'autonomie sur ton chemin de maternité, n'hésite pas à me contacter. À bientôt!